Aucun livre nulle part dans le monde n'a jamais été écrit sur le sujet et les médias ne se bousculent pas en général pour en parler. Le microbiote vaginal fait partie de ces thèmes qui restent encore tabous et pourtant, passé les réactions hésitantes, la flore vaginale est un écosystème à part entière, très souvent méconnu de la part des femmes elles-mêmes. C'est l'objet de notre tête au carré à l'occasion de la publication du tout premier ouvrage sur la question « Microbiote vaginal, la révolution rose ». Je vous présente mes invités dans un instant. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, les effets du changement climatique sur les courants marins.
Oui Mathieu, les changements climatiques pourraient modifier la localisation des courants marins profonds de l'Atlantique Nord. Une étude prévoit que d'ici 2100, ces grands mouvements d'eau pourraient bien se retrouver déplacés sous les tropiques et en Arctique.
On découvre ça dans un instant. Fanny Bouillon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le microbiote vaginal, ce sera donc le thème dans un instant de notre dossier. Et pour en parler, je reçois la journaliste santé Rika Etienne et le médecin infectiologue Jean-Marc Bobo. Bonjour à vous
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Bienvenue Rika Etienne. Les femmes ont un trésor en commun, c'est leur microbiote vaginal.
Absolument, un microbiote vaginal. Ouais. On ose le dire sans baisser la voix.
Ouais, absolument, oui, absolument. Ouais. Et ça fait peu de temps qu'on le sait, au fond. Hein.
Ça fait peu de temps. Disons que Jean-Marc est confronté à ce microbiote depuis une décennie ou deux, j'ai l'impression, mais que les études se multiplient vraiment depuis 5 ans. Donc ça fait vraiment peu de temps. Et à tel point que ce n'est pas encore passé dans le... Enfin, même dans la connaissance des médecins. Hein. Eux-mêmes.
Jean-Marc Bobo, vous allez nous parler d'un sujet totalement méconnu. Donc, méconnu ou tabou d'ailleurs ? Il y a un peu des deux. Hein.
Dans le milieu scientifique, ce n'est pas tabou. Au contraire, c'est plein d'espoir puisque à la consultation que j'assure à l'Institut Fournier depuis 40 ans maintenant, je constate, comme tous les gynécologues, que les traitements classiques, en particulier pour les infections gynécologiques, sont décevants, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les antifongiques. Ils donnent des résultats à court terme, mais à long terme, on a des récidives. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi tous ces échecs. Et la science nous a aidés puisque depuis une quinzaine d'années, on parle des microbiotes. On a commencé par l'intestin.
C'est vrai.
On commence à connaître un peu mieux le vagin et on trouve des réponses.
On parlera beaucoup d'hygiène aussi avec vous hein, dans ces problèmes récurrents et dans les bons gestes. On se retrouvera donc dans un instant avec les messages des auditeurs. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Les courants marins sont des éléments essentiels dans la régulation du climat. Or, les changements climatiques qui se préparent risquent de bouleverser leur équilibre.
Laissez-moi vous expliquer. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour... Ce sera la fin de notre climat tempéré.
Ça, c'était dans le jour d'après. On va voir ce qu'en pense notre scientifique dans un instant. Avec le changement climatique, en tous les cas, les courants marins profonds de l'Atlantique Nord risquent-ils de se déplacer au large de la Floride en 2100 ? C'est le sujet de la Une de la Science aujourd'hui, Caroline Tourbe.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes en ligne avec Camille Lick. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au laboratoire d'océanographie physique et spatiale près de Brest et vous avez publié avec votre collègue Matthew Thomas de l'université de Yale une étude originale et inquiétante sur l'avenir des courants marins profonds en Atlantique Nord. Ces courants marins profonds sont issus du Gulf Stream et ils sont des régulateurs très importants de notre climat. Comment est-ce qu'ils fonctionnent ?
Donc on a effectivement, exactement comme dans l'extrait que vous venez de passer, on reçoit plus de chaleur du soleil à l'équateur qu'au pôle. Et l'océan, il joue un rôle très important pour redistribuer cette chaleur. Et donc on a effectivement en Atlantique Nord ce Gulf Stream et ce courant nord-atlantique qui ramène de la chaleur vers les hautes latitudes. Et c'est grâce à notamment ce courant que... On a un climat assez tempéré en Europe de l'Ouest et que typiquement il fait plus chaud pour une latitude exacte et égale, il fait beaucoup plus chaud typiquement à Bordeaux que à Montréal qui est à peu près à la même latitude.
Donc le film Le Jour d'après disait vrai, Camille Lick.
pour sur certains aspects, oui.
vous êtes plus réservé sur d'autres.
Oui.
Donc ces mouvements d'eau, ces mouvements profonds, c'est un fonctionnement de tapis roulant. Vous pouvez nous expliquer ce changement entre l'eau chaude de surface, les eaux plus froides en profondeur?
Donc on a vraiment ce système-là de on appelle ça réellement un tapis roulant. Donc on a en surface ces eaux chaudes qui reviennent de l'équateur plutôt vers les pôles, vers les hautes latitudes. Et à un moment, en remontant vers le nord, ces eaux, elles vont avoir tendance à devenir de plus en plus salées, de plus en plus froides, en rendant leur chaleur à l'atmosphère. En devenant froides, elles deviennent plus denses, plus lourdes, et elles vont avoir tendance à plonger vers le fond des océans, puis à retourner vers le sud. Comme il ne faut pas qu'on vide complètement les bassins, en gros, si on amène de l'eau vers le nord, il faut bien qu'on la ramène vers le sud quelque part. Et donc, c'est ce fonctionnement de tapis roulant qui est vraiment un élément clé de notre climat, un régulateur de notre climat.
Et le mouvement de convection, cet effet tapis roulant, actuellement, il se situe entre le nord de l'Écosse, le Groenland, le nord du Canada, pour la plupart. Et dans votre étude, vous montrez que la localisation pourrait totalement changer d'ici 2100.
Oui, donc on a effectivement regardé ce qui se passait en 2100 dans un modèle climatique, donc un modèle qui est utilisé typiquement pour les prévisions du GIEC, où on regarde vraiment l'évolution à long terme de ce que pourrait devenir le climat dans des scénarios donc climatiques où on modifie la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ce qu'on voit avec nos résultats, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, cette convection, donc vraiment cette plongée des eaux de surface vers la profondeur, dans notre climat actuel, ça se fait des deux côtés du Groenland, à peu près comme vous venez de le dire. Et alors que dans un climat plus chaud, on voit à la fois ce tapis roulant qui va avoir tendance à ralentir. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis plusieurs années. Et la nouveauté de notre étude, c'est qu'on montre que cette plongée des eaux de la surface vers la profondeur, elle va avoir tendance à se décaler. Et elle va tendance à commencer à se faire dans le bassin arctique, donc beaucoup plus au nord, et aussi beaucoup plus au sud, ce qu'on appelle la gyre tropicale, donc à peu près à la latitude de la Floride.
Est-ce que c'est un processus qui va très très vite en ce moment par rapport à justement l'effet naturel de ces courants habituellement?
Alors, nous, on regarde vraiment des choses assez à long terme dans un scénario qui est à peu près qui est le scénario du pire du GIEC, donc ce qui s'appelle le business as usual, donc on continue sans rien modifier nos émissions. Et même dans ce scénario de changement climatique, on regarde à peu près ce qui va se passer dans une centaine d'années. Donc à la fois c'est assez rapide à l'échelle climatique, à la fois c'est pas quand même un signal qu'on va voir émerger la semaine prochaine.
Camille Hillic, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence de ce grand déménagement des courants profonds, un courant profond qui est censé être au large du Groenland et qui se retrouve près de la Floride ou en Arctique? Qu'est-ce que ça peut signifier?
Alors, on n'a pas totalement élucidé ça dans notre étude. Ceci dit, comme je vous disais, c'est vraiment ce fonctionnement de tapis roulant, c'est ça qui ramène beaucoup de la chaleur de l'équateur vers les pôles. Donc forcément, si on modifie la localisation, bah on a une chance de modifier donc cette chaleur qui est remontée. Avec ça, on va modifier la trajectoire des tempêtes, typiquement en Atlantique Nord, qui est important pour notre météo et notre climat en Europe à nouveau. En plus de la météo, le climat, l'océan joue un rôle très important pour être capable d'absorber une partie des émissions de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. L'océan arrive à la piéger en profondeur grâce à justement ces plongées d'eau profonde. C'est vraiment des fenêtres entre l'atmosphère et l'océan profond. Et donc, en modifiant où la plongée de ces eaux se fait, typiquement, on va modifier la capacité de l'océan à piéger ce CO2, à piéger de la chaleur en profondeur et ainsi à réguler et à moduler les effets du changement climatique.
Ça voudrait dire que l'accélération du réchauffement, des changements, va être réelle?
Oui. Après, il y a plusieurs changements qui ont lieu en même temps et on ne peut pas juste regarder un élément du changement, des changements climatiques et ça ne vous donne pas toute la réponse et l'histoire entière. Effectivement, après, il y a des interactions, il y a des rétroactions entre les différents éléments du système et il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre réellement et être capable de de quantifier mieux et de comprendre mieux l'impact que ça pourra avoir typiquement sur notre climat en Europe.
Est-ce qu'on peut, ouais, justement, Camille, donner quand même une image de ce que ça pourrait représenter en Europe, alors par exemple sur le front atlantique en France? Est-ce qu'on peut avoir une idée en 2100 à quoi ressemblerait le climat avec ces changements océaniques?
C'est pas quelque chose qu'on a regardé et du coup je m'avancerai pas à vous donner une réponse là-dessus. Comme je vous le disais, il y a plein de choses qui se passent en même temps, en plus de modifier la position de ces plongées d'eau profonde. On a aussi les glaces qui vont fondre énormément. Enfin, il y a vraiment des rétroactions entre les différents éléments du climat, que ce soit l'atmosphère, la cryosphère, l'océan. Et ces rétroactions-là complexes, on est très loin de les comprendre à l'heure actuelle. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et tant qu'on ne comprend pas mieux ces interactions entre les éléments du système climatique, vous donner une idée de il fera 4 degrés de plus ou 4 degrés de moins chez nous, on ne peut pas vraiment le faire.
Voilà, c'est complexe, donc vous êtes prudente et on le comprend. Caroline.
Oui, vous avez choisi le pire scénario du GIEC. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêtée à ce scénario du pire?
Pourquoi l'étude qu'on fait, on essaie vraiment de regarder des changements et du coup, on essaie de contraster des climats différents pour vraiment essayer de comprendre la réponse et d'essayer de comprendre les mécanismes en jeu. Donc, plus on a une réponse contrastée avec un scénario un peu extrême, plus c'est facile en fait de mettre en évidence les changements et de les regarder, ils vont être intensifiés, mais finalement, quand on regarde un scénario moins pire, on va avoir les mêmes changements, mais moins intensifiés, mais du coup, ils sont plus durs à détecter. Et on parle du scénario du pire, mais les scénarios, ils ont commencé, les scénarios d'émission, ils commençaient environ en 2010, je crois, et pour l'instant, on est parti pour être pire que le scénario du pire. Je pense que le prochain exercice du GIEC, qui va être dans les prochaines années, il va revoir à la hausse et largement ce qu'on appelle le scénario du pire actuellement.
Bon, on va terminer avec ces propos très optimistes. Camille Leek, merci beaucoup en tout cas pour votre décryptage à l'occasion de la publication donc de cette étude sur l'avenir des courants marins profonds en Atlantique Nord. Merci beaucoup Caroline Tourbe.
Merci Mathieu.
À très bientôt. Et dans un instant, notre dossier sur le microbiote vaginal. Tell me I'm not what you need. If I had a quarter, I would pull it together, and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles. Thoughts running in circles. I walk around all day long, following me. The doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. The doctor said I was not my past. He said I was fun free. Taking the jump, took the lead. Thank you.
like a weapon, a tool for me. You think I'm like the other ones? Well, my cage is a weapon, it's perfect for me. It's the one suit they seem to now see. I'm alone on my word, not having you heard. My word's the only thing I've ever needed. Truly need woman, 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 woman.
Woman, la voix de Cat Power à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Et si notre vagin pouvait parler en deux mots, qu'est-ce qu'il dirait? Tout doux. Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'il sent la rose alors qu'il est censé sentir la chatte. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire. Le purifier avec tout leur spray aux fleurs, aux fruits ou à la pluie. Bah, je veux pas que ma chatte sente la pluie. Toute propre comme un poisson qu'on aurait nettoyé avant de le cuire. Non, moi, je veux sentir le poisson. C'est pour ça que j'ai commandé.
Voilà la voix de la comédienne Marie-Christine Adam dans les monologues du vagin, l'une des très nombreuses interprètes de cette pièce, qui a d'ailleurs repris avec Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot, Myriam El-Khomri, donc les ministres aussi ont envie de parler de vagin, et c'est le cas cet après-midi également dans notre Tête au Carré, à l'occasion donc de la publication d'un ouvrage, le tout premier dans le monde, qui s'intéresse à ce microbiote vaginal, cette flore bactérienne totalement méconnue. Jean-Marc Bobo, Erika Etienne, vous en êtes les auteurs de cet ouvrage qui sort aux éditions Marabout. Jean-Marc Bobo, vous êtes médecin infectiologue et spécialiste des infections génito-urinaires et directeur médical à l'Institut Fournier. On peut dire juste un mot de votre nom de famille, parce que s'appeler Bobo quand on est médecin, déjà, c'est pas mal. Mais vous me disiez en plus, hors antenne, que Bobo, ça veut dire quoi en créole?
Oui, ça veut dire vagin.
Voilà.
C'est un jour un des élèves de l'Institut Fournier qui venait en stage, qui venait de Haïti, et qui m'a dit, je suis content que ce soit vous qui fassiez le cours sur le vagin, parce que chez nous, Bobo, ça veut dire vagin.
Incroyable.
Donc c'était c'est une prédestination.
C'est un sujet qui vous poursuit. Rika Etienne, vous êtes journaliste santé, oui, et vous allez répondre donc aux questions des auditeurs qui nous rejoignent déjà sur le site franceinter.fr. Alors justement, vous avez épluché, avant d'écrire ce livre, toute la littérature scientifique. Aucun livre, nulle part, n'a jamais été écrit alors sur le microbiote vaginal. Parce que
oui,
sur le vagin, on peut trouver évidemment des ouvrages, oui, mais sur ce thème du microbiote, c'est très récent. Hein.
Cocorico quand même, ouais, oui, ouais, c'est vrai, c'est le premier livre. Par contre, vous noterez que dans le livre, il y a référence à très très nombreuses études scientifiques.
Absolument.
Que Jean-Marc a exploré comme il se doit.
Ouais. Et pour vous, en tant que journaliste aussi, ça a été une découverte de travailler sur ce thème, sur cette flore?
Ça a été, oui. J'avoue que j'avais déjà écrit plusieurs, co-écrit, vraiment, avec un autre auteur, Sylvain Mimoun, beaucoup sur la sexualité, mais que de tourner autour du sujet comme ça et de découvrir la flore vaginale et l'importance qu'elle-même pouvait avoir sur déjà le confort intime de la femme, mais aussi sur sa sexualité, vraiment j'avais l'impression que là, j'avais trouvé la dernière pièce du puzzle.
Ouais, il y a la sexualité.
Et que tout s'emboîtait, quoi.
Et il y a la santé aussi. Hein.
La santé, bien sûr. Parce que, évidemment, quand on n'a pas la santé, la sexualité, ça devient beaucoup plus compliqué.
Ouais. Alors, justement, Jean-Marc Bobo, ça ne fait que très peu de temps que les chercheurs connaissent à la fois le microbiote, hein, avec celui intestinal qui a été largement popularisé. Et alors, on en connaît encore moins sur le microbiote vaginal aujourd'hui.
Oui, alors moi, je me suis amusé à colliger le nombre de publications scientifiques depuis qu'on parle parle du microbiote dans les années 2000. En 2000, je crois que je parle d'articles scientifiques. Il y a eu 135 articles publiés. En 2016, on est passé à 6900 articles publiés. Mais pour le vagin, uniquement 150.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose de très récent. On a beaucoup travaillé sur le microbiote intestinal. On travaille beaucoup et de plus en plus sur le microbiote vaginal, qui est finalement beaucoup plus simple que le microbiote intestinal, parce que l'intestin, c'est quelque chose de très compliqué. Mais c'est vrai que le fait de travailler sur ce microbiote vaginal, ça permet de commencer à donner des pistes pour soulager les femmes, pas simplement pour les infections, mais pour leur vie de tous les jours et la sexualité, bien sûr.
Et les chiffres sont absolument hallucinants, puisque vous dites que chaque année dans le monde, des centaines de millions de femmes sont atteintes par des infections urinaires ou vaginales. Un milliard d'infections à peu près, c'est ça ?
Il y a un milliard d'infections féminines, vaginales ou urinaires dans le monde, et l'immense majorité, c'est lié à un déséquilibre de ce qu'on appelait autrefois la flore vaginale, qu'on appelle le microbiote.
Ouais, donc on a tout à apprendre sur cette question. Et les chercheurs, les premiers, hein.
Ah oui, oui, ben c'est, là, y a, dans le monde, tout le monde se précipite sur ce petit vagin, si j'ose dire, pour essayer d'en découvrir les secrets, et ça commence à venir. Mais le problème, c'est que le vagin est un organe qui est très dual, c'est-à-dire que c'est à la fois la protection contre les organes internes, ça va protéger l'utérus, les ovaires, qui sont des organes nobles, puisque c'est eux qui vont permettre la procréation. Mais en même temps, il y a cette fonction qui rend le vagin tabou, c'est la fonction de plaisir. Et c'est vrai que la dualité de ce vagin, ça pose des problèmes en communication, parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas toujours facile d'en parler.
Eh ben, c'est le moment de s'y atteler, voilà. Absolument. Et c'est la première émission qu'on fait sur le sujet, et votre livre va y participer, certainement pour aider à populariser cette question. Comment justement ces découvertes sur la flore peuvent transformer la santé intime? Pourquoi vous parlez d'une révolution? Parce qu'on emploie ce mot parfois un petit peu n'importe comment, mais là vous dites que en matière de gynécologie, on est vraiment dans une révolution pour les femmes.
Franchement, moi j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une véritable révolution, parce que on change de paradigme. C'est-à-dire que grâce à la prise en compte du microbiote vaginal, les médecins, les pharmaciens vont commencer à voir les traitements autrement. C'est-à-dire qu'auparavant, on prescrivait l'argamanu des antiseptiques qui étaient donc tellement efficace que c'est comme si on tirait à la Kalachnikov sur des germes. Et le problème, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on reprogramme la crise suivante. Ils étaient tellement efficaces qu'ils tapaient très fort sur la flore vaginale et qu'ils tapaient parfois trop fort. Alors je ne dis pas, et vraiment c'est sous le contrôle de l'infectiologue, je ne dis pas qu'il ne faille pas utiliser de temps en temps un antimycosique ou un antibiotique, mais pas aussi systématiquement, et en tout cas pas sans les accompagner de protection naturelle qui sont les probiotiques et qui vont venir aider la flore à faire son boulot.
Ah oui, c'est vraiment éloge des probiotiques d'ailleurs, votre ouvrage.
Ah oui, j'avoue.
Hein. Ouais.
J'avoue,
mais
je n'en suis pas responsable.
Non, mais on a l'impression qu'on va trouver toutes les solutions grâce aux probiotiques quasiment.
Alors, je ne dirais pas ça, parce que c'est la flore vaginale, hein, Jean-Marc, tu es d'accord, qui fait le boulot, mais ça vient en renfort de cette...
Il ne faut pas imaginer que les probiotiques vont tout résoudre, hein. C'est pas du tout le but de l'opération, c'est simplement dire que ces probiotiques doivent participer à une prise en charge plus globale. C'est une arme thérapeutique supplémentaire, une arme préventive supplémentaire, mais il ne faut pas imaginer qu'avec les probiotiques, on va résoudre tous les problèmes.
Alors justement, il y a beaucoup de parallèles à faire entre le microbiote intestinal et vaginal. Est-ce que le fonctionnement est assez similaire ou pas du tout? On est dans deux écosystèmes qui ne se ressemblent pas.
On est dans deux écosystèmes qui sont fondamentalement différents, même si de temps en temps il y a des points communs. Et les points communs, c'est que ces microbes n'ont pas simplement un rôle de protection en empêchant des microbes, alors je parle des microbes bénéfiques qu'on a dans le vagin, en empêchant d'autres microbes de développer. Ils ont la possibilité aussi d'agir sur l'immunité, c'est-à-dire sur les défenses. Et ça, c'est quelque chose de commun à l'intestin et au vagin. Mais maintenant, les bactéries protectrices que l'on trouve dans l'intestin et dans le vagin sont complètement différentes. D'où cette mode qui vient de Californie de se mettre du yaourt dans le vagin. C'est sûr que ça ne marchera jamais.
Qu'est-ce que c'est que cette mode? Pardon.
Ben, on s'est dit que la flore de protection du vagin, c'est ce qu'on appelle des lactobacilles.
Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà.
Et donc, comme on a dans les yaourts,
on en trouve aussi dans les yaourts.
Mais le problème, c'est que les lactobacilles que l'on trouve dans les yaourts sont très bons pour l'intestin, n'ont aucun effet pour le vagin. Donc, il faut se garder les yaourts pour autre chose. Ouais.
C'est hallucinant ce qui circule d'ailleurs sur Internet. Ouais. Quand on s'intéresse un tout petit peu à la question, les préconisations sont parfois plus farfelues les unes que les autres. Alors, une question intéressante d'Alain qui aimerait savoir si lors de l'accouchement, il y a une modification du microbiote vaginal. Il s'y joue un rôle sur le développement du bébé au moment du passage. Parce que là, il y a plein de choses aussi autour des bactéries. Bien
sûr. Alors ça, c'est un point tout à fait fondamental. Alors déjà, on sait que pendant toute la grossesse, le microbiote de la femme enceinte est beaucoup plus stable qu'en dehors de la grossesse, puisqu'il n'y a pas d'épisode de règles. Et que le passage dans les voies génitales, dans le vagin, le passage du bébé dans le vagin, c'est ça qui va lui donner des premières armes de défense. Mmh. Et on a fait des travaux sur la différence entre l'immunité des nouveau-nés qui étaient nés par césarienne et ceux qui sont nés par voie basse, c'est-à-dire par accouchement vaginal. Et on s'est aperçu qu'il y avait des différences fondamentales qui peuvent aller au fil des années jusqu'à l'apparition de maladies comme le diabète, comme l'obésité. Donc il y a un rôle fondamental protecteur du vagin.
C'est une sorte de barrière déjà que la mère donne à son enfant au moment de l'accouchement.
Voilà, et d'où cette tradition que l'on voit un petit peu apparaître dans les pays anglo-saxons qu'on voit en France, pour les enfants qui accouchent par césarienne, de ce qu'on appelle le vaginal seeding, c'est-à-dire que l'on va tremper une petite compresse dans le vagin des femmes, et puis on va badigeonner la bouche du nouveau-né pour essayer de lui redonner un ersatz de défense vaginale. Mais c'est vraiment très spectaculaire de voir la différence de défense entre un enfant né par césarienne et un enfant par voie basse.
Microbiote vaginal, c'est aux éditions Marabout, on en parle avec vous, dans La Tête au Carré.
J'absorbe ton être et me délecte de ta chair offerte. Donne-moi toute ta substance, deviens peau remplie de vide, traversée par le néant. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le crime, instant sublime, festin gourmand. Nosferatu, ami mortel. Nosferatu, amour cruel, cruel. Oh, Nosferatu, assassine dans un délice onctueusement rouge. Tu blanchis sous ma puissance décuplée. Une dernière goutte de sang et je disparais, laissant le goût amer de mes crocs dans ta jugulaire. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le instant sublime, festin gourmand.
Nosferatu, ami mortel. Nosferatu, amour cruel, cruel.
Je suis la honte, la fable conte des enchantements. Je suis l'immense, l'impressionnant, le mort-vivant. Je suis le pire, dernier soupir sanguinolent. Mon Nosferatu, we'll be right back. dans un délice onctueusement rouge. Tu blanchis sous ma puissance décuplée. Une dernière goutte de sang et je disparais, laissant le goût amer de mes crocs dans ta chair.
Nosferatu, c'était Arthur H.
On en a fini avec le pénis et nous pouvons passer à la... de
la vulve.
La tête au carré.
Microbiote vaginal au programme de La tête au carré cet après-midi avec le docteur Jean-Marc Bobo et la journaliste santé Rika Etienne et vos messages sur franceinter.fr. Justement, il y a Nicolas qui nous demande, puisqu'on parle du microbiote vaginal, est-ce qu'il existe un microbiote du pénis, Rika
oui.
Etienne.
Eh oui. Mais d'après ce que me disait Jean-Marc, il était beaucoup moins développé que celui des femmes. Il en reste.
Oui, c'est
oui,
ça.
Oui, il y en a.
On a moins de terminaisons nerveuses aussi par rapport aux femmes.
Par rapport aux femmes, oui. Enfin, c'est très variable d'un homme à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de terminaisons nerveuses. Il y a aussi moins de surface, hein, donc c'est un petit peu logique. Au millimètre carré, il y a moins de terminaisons nerveuses. Oui.
Alors ce microbiote du pénis, pardonnez-moi si on fait une petite parenthèse, mais il est donc beaucoup plus petit que le microbiote vaginal.
Alors c'est pas tellement une question de quantité, c'est une question de nombre de bactéries, c'est-à-dire de diversité bactérienne. Donc on est beaucoup plus près de ce que l'on trouve au niveau de la peau que ce que l'on peut trouver au niveau du vagin, puisque le vagin est une cavité interne, et donc là, le microbiote est différent. Mais ces deux microbiotes sont appelés à se rencontrer de temps en temps.
Alors c'est ça, justement, Rika Etienne. Est-ce qu'il peut y avoir une guerre des pH entre le microbiote du vagin et du pénis ?
Il peut y avoir une guerre des pH, il peut y avoir une guerre des microbiotes. Mais en fait, la guerre est plutôt sympathique et pacifique, ce qui est un oxymore, mais quand même. Parce que le pH du sperme est de 7, le pH du vagin est de 4,5. On pourrait s'attendre à des réactions explosives entre les deux partenaires, ce qui heureusement n'est pas le cas parce que ça voudrait dire que l'espèce humaine serait vouée à l'extinction. Assez vite, les lactobacilles qui sont dans le vagin vont pomper du glycogène, vont transformer tout ça en acide et réacidifier la cavité vaginale qui doit rester acide. Et donc, au bout de quelques temps, je ne sais pas, une demi-heure, Jean-Marc ?
Une demi-heure à peu près.
Assez vite. Donc, tout ça va être rééquilibré et le vagin après l'acte sexuel va retrouver une ambiance locale tout à fait sympathique, acide et normale.
Ouais. Pourquoi justement ça doit rester acide cette cavité, docteur Bobo ?
Alors dans un vagin, il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale. 90% de ces germes sont des bactéries qui sont des bactéries protectrices qu'on appelle des lactobacilles. Mmh. Et puis il y a 5 à 10% d'autres bactéries qui ne peuvent pas se développer tant que le pH est acide. À partir du moment où le pH devient un peu plus alcalin, c'est-à-dire pour le vagin, alcalin c'est au-dessus de 4,5, eh bien les autres bactéries peuvent se développer et là il y a des infections qui peuvent apparaître. Donc l'acidification du vagin, c'est un mode de protection, l'un des modes de protection, il y en a plein d'autres, mais c'est un mode de protection fondamental.
Rika Etienne, d'où vient ce mot vagin ? Parce que vous le racontez aussi dans le livre, au détour de toutes les petites informations que vous nous livrez.
Alors ce mot vagin vient de notre ami Fallope, Gabriel Fallope, qui a vécu durant la Renaissance.
Ouais.
Et donc, c'était pas un grand macho qui avait un cheveu sur la langue, je vous rassure. Mais c'est lui qui a inventé le terme de vagina, qui est devenu vagin par la suite. Et il a été très sympathique également pour tout le genre humain, puisqu'il serait à l'origine de la première utilisation du préservatif.
Ouais. Et il a aussi découvert le clitoris, hein. C'est lui qui s'y est intéressé.
Hein. Juste avant de mourir.
Voilà. Donc, retenons son nom, cet homme a fait beaucoup de choses, monsieur Fallope, 1523-1562.
On lui rend hommage.
D'ailleurs, on lui a déjà rendu hommage, puisque il y a ce qu'on appelle au-dessus de l'utérus, il y a ce qu'on appelle les trompes de Fallope. Les trompes de l'utérus qui vont amener l'œuf jusqu'à la cavité utérine, ça s'appelle les trompes de Fallope.
Eh bien voilà.
Donc la notoriété est assurée.
Exactement. Un petit cours d'anatomie justement.
Oui, alors sur le vagin. Donc le vagin, c'est un organe qui est très petit, mais qui est parfaitement extensible pour s'adapter, bien sûr, aux conditions sexuelles.
Ou à la naissance d'un enfant.
Ou à la naissance d'un enfant. Pendant la naissance d'un enfant, il va se rétracter complètement. Mais il faut savoir que le vagin, moi, j'ai tendance à dire que c'est le début et l'infini, puisque
c'est
ben oui, le début, c'est là, par là que les spermatozoïdes vont pénétrer. Et puis la fin, c'est aussi le début, puisque c'est la première fenêtre sur l'univers que va découvrir l'enfant. Et donc, je trouve qu'il y a une connotation très importante du vagin que l'on oublie un peu. Et pour moi, c'est très important.
Rika.
Et je voulais ajouter que quand même, Jean-Marc Bobo est le seul homme que j'ai entendu parler du vagin en des termes si magnifiques. Il est capable de vous dire que quand un vagin va bien, qu'il est rose, qu'il est moelleux, qu'il est étincelant, c'est la galerie des glaces à Versailles.
Ah oui, carrément. Ouais.
Et que quand il est déséquilibré et que la pauvre patiente va mal, c'est un petit peu sec, c'est un peu terne, c'est gris et il est vraiment très malheureux pour la patiente. Mmh. C'est joli quand même.
C'est magnifique. C'était presque un cours d'astrophysique d'ailleurs. Que vous nous avez donné là, oui, en parlant de l'univers et de l'infini. Les poils de la vulve sont là pour protéger cette zone fragile et l'épilation totale n'est pas recommandée.
Apparemment, Jean-Marc est très hostile effectivement à l'épilation, mais je pense qu'il a de bonnes raisons.
On va écouter un petit sujet d'abord et puis on va commenter ça juste après. Cet extrait du journal de BFM TV il y a 2 ans.
Pour cette jeune femme, c'est devenu une évidence.
Les aisselles, le maillot, intégrale.
Épilation intégrale. La guerre aux poils est déclarée.
Je peux pas me voir avec des poils. Je trouve que c'est pas propre.
Chez les moins de 25 ans, la pratique est courante, adoptée par quasiment une jeune femme sur deux. Cette esthéticienne confirme.
Maintenant, c'est de plus en plus répandu. Ça commence à 16 ans, maintenant les très jeunes.
Alors, cette pratique est-elle risquée? Pas du tout, rassure cette dermatologue.
Il n'a jamais été démontré que ces poils à cet endroit-là étaient réellement indispensables. En tout cas, il n'y a pas de pathologie au niveau des organes génitaux due au fait qu'on s'épile intégralement.
Ah là là, docteur Bobo, là vous allez reprendre cette dermatologue. Hein.
Oui, ouais. Parce qu'il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a de plus en plus de publications internationales qui montrent qu'il y a une augmentation du nombre de maladies sexuellement transmissibles directement liées à l'épilation. En particulier des maladies liées au papillomavirus, à l'herpès, à la syphilis, etc. Donc contrairement à ce que ma consoeur vient de dire, je suis obligé de démentir et de dire que l'épilation est vraiment quelque chose de très nuisible et qui favorise les infections. Mais je voudrais insister sur le fait que, bon, l'épilation, pourquoi pas, mais ce qui est le plus dangereux, c'est l'épilation définitive, c'est-à-dire l'épilation au laser, où on va détruire le follicule pileux et on va détruire en même temps la petite glande sébacée qui est chargée de lubrifier la peau. Or, la peau a absolument besoin d'être lubrifiée, a fortiori la vulve qui est un pli, qui frotte avec les vêtements, etc. Et j'ai des jeunes filles qui viennent me voir après une épilation définitive au laser et qui seront définitivement contrainte d'utiliser des produits hydratants pour le restant de leur jour. Donc, qu'on s'épile le maillot, pourquoi pas, il y a des modes, mais surtout pas d'épilation définitive, d'une part à cause de l'infection et d'autre part, c'est une sécheresse assurée pour le restant de ses jours.
Donc, il y a une vraie méconnaissance là aussi, hein, sur ce sujet.
Oui, ça commence à venir. Ça commence à venir. On s'aperçoit effectivement, il y a des dermatologues qui sont en train de faire machine arrière et de comprendre que c'est vraiment nuisible.
Donc, vous faites la chasse à l'épilation totale.
Je fais la chasse à l'épilation. Vive les poils.
Rika Etienne.
Oui, puis c'est une première protection parce que ça maintient l'hydratation locale, déjà première chose. Et puis la seconde chose, c'est que ça sert de tapis roulant. En fait, ce qu'on ne sait pas,
c'est que vous décrivez comme processus.
Disons que le devant est réensemencé par ce qui vient de derrière, en fait. Et donc les poils permettent la migration des bons lactobacilles qui vont venir réensemencer la flore. Donc ça a vraiment un triple intérêt. Moi, j'en rajouterai un quatrième. Mm-hmm. Mais bon, là, ça n'engage que moi. Ce sont enfin des diffuseurs d'odeurs et pendant l'acte sexuel, c'est important d'avoir aussi des odeurs qui sont stimulantes et ça a été montré par des études que ça augmentait le taux de testostérone quand vous aviez plus d'odeurs à ce niveau-là. Donc, c'est se priver d'un atout
important. Non négligeable. Voilà. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le livre aussi. Hein. Il y a toute une liste, là, je ne retombe pas dessus maintenant, mais de ouais. femmes qui décrivent aussi les odeurs, alors qu'ils sont très, très différentes les unes des autres. Oui. Hein. Mmh. Et c'est extrait aussi des monologues du vagin, d'ailleurs. Oui, hein. C'est une liste qu'on peut retrouver dans cette pièce. Une question de Zafir qui s'inquiète. Professeur Bobo, quels sont les risques dans la pratique du cunnilingus? Son avenir est-il remis en question à la lueur des dernières découvertes?
Oh, pas du tout. Le cunnilingus est une des pratiques les moins à risque, à condition, bien entendu, que les lèvres aussi bien de l'intervenant que de l'intervenu, soit indemne de toute lésion. C'est-à-dire qu'un homme qui a un chancre au niveau de la lèvre ou de l'herpès au niveau de la lèvre, il risque de transmettre la maladie lors du cunnilingus. Mais tant qu'il n'y a pas de lésion visible à l'extérieur, que ce soit les lèvres du haut ou les lèvres du bas, ça n'a aucun risque.
Microbiote vaginal, c'est aux éditions Marabout. On en parle avec vous dans un instant. C'était Cargo, bien sûr, souvenir de l'année 1983.
La tête au carré.
Voilà, Rika Etienne et le docteur Jean-Marc Bobo, nos invités pour ce microbiote vaginal qui paraît chez Marabout, la Révolution Rose. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. D'ailleurs, Rika Etienne, vous constatez à quel point ce sujet, dont on parle finalement très très peu, suscite énormément de questions à chaque fois que vous organisez des rencontres autour de ce thème.
À chaque fois, je m'aperçois que les femmes, quel que soit leur âge, qu'elles soient, je ne sais pas, adolescentes ou qu'elles soient aux abords de la ménopause, ménopausée, enfin... en reprise de couple, etc. Toutes les femmes se sentent concernées par ce sujet. Et ben, voyant l'enthousiasme que j'ai à partager avec elles, se mettent à raconter des choses qu'elles n'osaient pas dire.
Jean-Marc Paubeau, ce microbiote, il évolue tout au long de la vie, justement, d'une femme, depuis le plus jeune âge jusqu'à la vieillesse.
Alors, la petite fille a un microbiote qui est très, très différent, bien sûr, puisque le microbiote de la femme adulte se développe essentiellement en présence des hormones qui vont venir à l'adolescence. Mmh. Et puis, jusqu'à la ménopause, jusqu'au moment de la ménopause, ce microbiote va rester à peu près stable. Et après la ménopause, il redevient un petit peu pauvre. Mais on sait là aussi qu'avec les nouveaux travaux, que le fait de rajouter des probiotiques, ça peut éviter pas mal de problèmes comme les sécheresses, comme l'atrophie vaginale au moment de la ménopause.
Florane demande, qu'est-ce que vous préconisez pour les mycoses des petites filles? Or, vous dites qu'elles n'en ont pas
dans l'ouvrage. Non, les petites filles peuvent pas avoir de mycoses, tout simplement parce que les champignons microscopiques qui sont responsables des mycoses ne peuvent se développer que s'il y a du glycogène, qui est un sucre qu'on trouve dans le vagin, et on ne le trouve que quand il y a des hormones. Or, manifestement, si on parle d'irritation vulvaire de la petite fille, c'est sûrement un autre problème et pas une mycose.
Nadia demande, est-ce que le tampon déséquilibre cette flore bactérienne ?
S'il est utilisé,
il y a beaucoup de questions autour du tampon.
S'il est utilisé correctement, c'est-à-dire si on ne le garde pas trop longtemps, il n'y a pas de problème particulier à utiliser des tampons.
En revanche, par contre, il ne faut pas utiliser des tampons en dehors des règles, ni de serviettes, vous savez, un petit peu protectrices pour vouloir anticiper, parce que tout ça, finalement, ça absorbe l'humidité locale ambiante et ça dérègle, ça déséquilibre la flore. C'est vraiment un des poisons de la flore méconnus. Il y en a d'autres.
On va écouter justement un extrait de ce documentaire qui avait fait beaucoup parler de lui sur France 5 il y a quelques mois, Tampon, notre ennemi intime.
Le professeur Gérard Lina connaît le responsable du syndrome du choc toxique menstruel. Le tampon, qui permet à une variété particulière du staphylocoque doré, dont certaines femmes sont porteuses, de se développer.
Si le fluide menstruel est bloqué par un tampon dans le vagin et que dans le vagin il y avait déjà du staphylocoque doré, le staphylocoque doré va utiliser le fluide menstruel comme milieu de culture. Et c'est probablement ce qui se passe au niveau du vagin. On voit qu'autour des colonies, là, le sang a été détruit par la bactérie qui a produit des toxines qui détruisent les globules rouges.
20 à 30% des femmes sont porteuses du staphylocoque doré. Chez certaines, il va justement libérer cette toxine extrêmement dangereuse et déclencher une infection généralisée.
Ces toxines qui passent dans le sang activent le système immunitaire de façon massive et en fait vont être responsables d'hypotension, de choc, de fièvre, d'éruption cutanée. Et si on ne prend pas en charge correctement cette maladie, on peut en mourir.
Jean-Marc Bobo, il y a eu beaucoup de réactions dans votre cabinet de gynécologue, infectiologue, justement après la diffusion de ce documentaire là, autour du tampon.
Oui, bien sûr, mais il suffit de remettre un tout petit peu les conseils d'utilisation au goût du jour, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais garder un tampon en début de règle plus de 6 heures, il faut essayer de le changer toutes les 4-5 heures. C'est pas tellement le tampon en lui-même, c'est la mauvaise utilisation du tampon qui risque de provoquer des problèmes. Donc il faut redonner tout simplement ces conseils de base, ces conseils hygiéniques, de ne pas utiliser n'importe comment les tampons, de ne pas les garder trop longtemps.
Anne nous dit, je suis effaré de ce qu'on a entendu récemment sur la fabrication des tampons, ce qui corrobore mon intolérance à ces tampons depuis plusieurs années. J'ai 47 ans et je serai sans doute prochainement débarrassé de ce problème des règles, mais qu'est-ce que je dois conseiller à mes filles, justement, c'est ce que vous venez de dire à peu près.
Bah alors, on a dit effectivement qu'il y avait dans les tampons, il y avait des polluants, il y avait des toxiques. Les quantités qu'on a retrouvées sont des quantités extrêmement faibles et le fait de retrouver ces toxiques en quantité très faible présume probablement d'un passage extrêmement mineur au niveau de la circulation sanguine. Ce qui me gêne le plus dans cette histoire-là, c'est qu'il faille qu'on fasse des enquêtes extérieures pour découvrir ce genre de choses. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit hyper dangereux, mais ça serait bien que les industriels prennent un peu la mesure et nous disent la vérité avant qu'on la découvre nous-mêmes.
Des questions autour de la pilule et du microbiote. Virginie nous dit, quelles sont les réactions négatives que pourrait provoquer le fait de prendre la pilule pendant des années sur notre microbiote vaginal ?
Tout dépend de la pilule. Il y a des pilules qui sont très faiblement dosées en estrogène et qui sont très probablement très utiles pour des femmes jeunes en particulier, qui ne donnent pas suffisamment d'estrogène dans le vagin et donc ça déséquilibre un tout petit peu le vagin. Et puis on a des pilules à base de progestérone qui, elles aussi, peuvent déséquilibrer. Mais là aussi, il faut réadapter. J'allais dire que le microbiote de chaque femme est bien particulier et la contraception de chaque femme doit être discutée avec chaque femme.
Rika, Étienne, le stress, le tabac, tout ça, les antibiotiques, tout
sont
ça,
sont des poisons.
C'est assez délétère pour le...
Le stress, on commence à s'intéresser à ça et à étudier ça. En tout cas, on s'était rendu compte, d'après une étude que nous citons d'ailleurs dans le livre, qu'on s'était rendu compte que les personnes qui étaient stressées avaient des troubles de la flore intestinale, hein, je dis bien intestinale, et on a vérifié si c'était le cas aussi sur la flore vaginale. Et de fait, l'étude a montré que les personnes qui étaient stressées, avaient davantage de mycoses, cystites, vaginoses, sans doute liées au stress de la flore. Alors, sans doute liées à la chute de l'immunité. Jean-Marc, je ne sais pas si on en sait un peu plus depuis qu'on a publié le livre.
Les femmes stressées, alors je parle du stress chronique, hein, le stress ponctuel, c'est pas dramatique, mais le stress chronique, il y a une augmentation de la production de cortisol et d'autres hormones qui peuvent diminuer un petit peu l'immunité.
Antibiotiques et tabac, là aussi vous insistez beaucoup là-dessus.
Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est très mal connu, y compris par les médecins, c'est que le tabac n'a pas simplement des effets délétères sur l'arbre respiratoire ou cardiovasculaire, c'est très mauvais pour le vagin et c'est un facteur de déséquilibre majeur de la flore vaginale.
Vous parlez des poisons de la flore, vous, carrément.
Ah, oui, absolument. Oui, parce que ça empoisonne la vie des femmes.
Et les antibiotiques, c'est important, vous les citez, mais faut pas taper trop fort non plus dessus, on va dire. C'est, parfois, on est obligé d'en prendre. Ouais. Donc, quand on prend des antibiotiques, il faut soutenir peut-être la prise antibiotique avec des probiotiques qui vont venir en soutien. Mais peut-être, c'est intéressant de préciser quand prendre ces fameux probiotiques.
Les probiotiques, il faut bien comprendre qu'il y a des probiotiques pour l'intestin qu'on prend par voie orale et les probiotiques vaginaux qu'on doit mettre dans le vagin. On les prend en même temps que l'antibiotique et on continue une semaine après pour rééquilibrer la flore.
On va écouter un assemblage réalisé par Fanny Beaulion de publicité autour justement de conseils pour la toilette intime.
Êtes-vous vraiment sûr de votre fraîcheur intime? 3 heures après votre douche? Avec la fraîcheur du gel Amishna, vous restez sûr de vous toute la journée.
Découvrez la pure fraîcheur. Les nouveaux protège-slip neutralisent les odeurs au lieu de simplement les masquer.
Miner vous offre une sensation fraîcheur longue durée. Des micro-fresh pearls, une sensation de sec, un contrôle des odeurs.
Amishna, fraîcheur et protection du matin au soir.
Mieux que la fraîcheur, la pure fraîcheur.
Voilà, c'est intéressant ce florilège avec cette fraîcheur qui revient à tout bout de champ.
Et qui est un véritable poison finalement de la flore. Parce que le fait de se pulvériser avec un déodorant intime, ça attaque la flore directement, donc il ne faut pas le faire.
Et puis c'est ultra culpabilisant quand même d'avoir toujours cette impression de ne pas être frais.
Ah oui, c'est vrai, l'injonction.
Oui, mais vous savez, je pense que c'est une tendance de la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les odeurs génitales. En général, notre société maintenant déteste les odeurs corporelles. Il va falloir les réhabiliter parce que ça fait partie de notre environnement et de notre fonctionnement.
Il y a un mouvement unwash en ce moment.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça.
Vous le citez aux États-Unis en particulier.
Et qui arrive en France. Et
donc pas laver, c'est ça?
Exactement, pas laver. Pour la toilette corporelle, donc aller 2 fois par semaine comme faisaient les anciens, on va dire. Mais la question que j'ai posée à Jean-Marc, qui m'a quand même, ça m'a interpellée, je lui ai dit oui, mais bon, pour le vagin. Jusqu'où peut-on aller dans le unwash?
Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir pour terminer.
Allez, une toilette par jour, ça suffit, avec un produit doux, surtout pas d'antiseptique et pas de toilette interne, pas de toilette vaginale. Le vagin est auto-nettoyant. Donc on met rien dans le vagin. Absolument. Au niveau de la toilette.
Donc attention aux produits aussi qui sont utilisés.
Absolument, des produits doux et pas d'antiseptique.
Ouais. Il y a une information qui est très importante aussi en direction des professionnels de santé, parce que finalement il y a une méconnaissance aussi qui concerne les médecins ou les infirmiers eux-mêmes.
Je le constate malheureusement tous les jours et c'est bien pour ça que j'aimerais bien que beaucoup de professionnels de santé, sage-femme, infirmière, etc. puissent lire ce livre.
En tout cas, c'est le tout premier qui sort sur ce sujet. Et vous le signez donc, docteur Jean-Marc Bobo et Rika Étienne. C'est chez Marabout, microbiote vaginal, cette révolution rose, comme vous la nommez, et comment ces nouvelles découvertes sur la flore transforment la santé intime. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci. Énormément de messages sur le site de La Tête au Carré. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont rejoints cet après-midi. l'après-midi. Allez, c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique, Thierry Dupin à la programmation musicale et bien sûr, dans un instant, vous allez retrouver Fabrice Drouel avec un nouveau numéro d'Affaires Sensibles. Bonne journée et à demain.